Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Dans la construction en triptyque de cette série de 1971, Roger Pilaudin, Jean-Louis Cavalier et Jean Jaurès nous donnaient lecture d'un ouvrage fameux de 1699, signé Limogeon de Saint-Didier, le triomphe hermétique. Auprès d'eux, le regard bienveillant d'un guide en lecture hermétique, Eugène Cancelier. L'alchimie demande en effet la pratique la plus exigeante, non tant par rapport à ses opérations, nous dit Limogeon, mais à l'égard des difficultés qu'il y a de l'apprendre distinctement dans les livres des philosophes, à la fois jeu d'enfant et connaissance profonde des principes. Vous écoutez Les Nuits de France Culture.
Entre chien et loup, entre chien et loup.
Avec Eugène Cancelier, alchimiste.
Ah ! Entre chien et loup.
Eugène Cancelier, commentateur du triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, Bibliotheca Hermetica, De Noël, éditeur.
Io spero di vincere quello che mai non fu ed è.
Entre chien et loup. 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 Entre chien.
Né en Avignon, l'an 1630, Alexandre Toussaint de Limogeon devait à son grand-père maternel, Esprit des Blancs, son titre de chevalier de Saint-Didier. Mais beaucoup plus que sa naissance, c'est son trépas, ou plutôt sa disparition, qui fixe l'attention émue du passionné de l'art. L'élève, Jean-Louis Cavalier. Le maître, Eugène Cancelier.
Ah oui, c'est un curieux personnage et c'est un mystérieux personnage aussi. Il a d'ailleurs été mêlé aux affaires extérieures de la France, n'est-ce pas ? C'était non pas un diplomate, mais un secrétaire de diplomate.
De Louis XIV.
De Louis XIV, oui. Et évidemment, son existence ne répond pas absolument peut-être à l'idée qu'on se fait de l'alchimiste. Du fait de son poste assez élevé, il est allé comme secrétaire d'ambassade à Venise et puis ensuite à La Haye, en Hollande, à la cour de Jacques II, enfin... Une cour qui n'était pas, puisque Jacques II cherchait surtout à conquérir son royaume quand Limogeon était avec son maître auprès de lui. Et évidemment, il a travaillé. Il est évident que Limogeon de Saint-Didier a travaillé au laboratoire. Comment, me direz-vous, pouvait-il travailler au laboratoire, c'est-à-dire concilier ses efforts de chimiste, plus exactement d'alchimiste, avec ses préoccupations de diplomatie.
Vous dites dans votre introduction que sa mort est encore plus intéressante et encore plus mystérieuse que sa vie.
Oui, bien sûr. Sa mort est un peu comme celle d'Alexandre Sétone, qu'on connaît mieux sous le nom de cosmopolite, parce qu'il se disait lui aussi citoyen de l'univers. Mais comme le cosmopolite, il est mort, il a disparu plus exactement, très mystérieusement. Il a quitté l'Angleterre avec un diplomate anglais, Milord Howard, si je me souviens bien, qui sans doute était auprès de Jacques II, pour accomplir une mission très importante auprès de Louis XIV. Et la frégate dans laquelle ils sont montés tous les deux a pris la voile par un très 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 mauvais temps.
Le nom de la frégate était prédestiné, je crois.
Oui, c'est assez curieux, oui, la tempête. La tempête a-t-elle, cette frégate, disparu dans la tempête? Voilà, on ne sait pas. A-t-elle été prise par les vaisseaux anglais? On ne le sait pas non plus. Toujours est-il que la chancellerie s'est préoccupée beaucoup de la disparition de Limogeon de Saint-Didier parce qu'il était transporteur de lettres importantes, d'un courrier très important. En clair, il était chiffré ce courrier, mais il le portait en clair. Et quelques années après, sont arrivées des nouvelles selon lesquelles la tempête avait relâché dans un port espagnol. On avait espéré un instant que la nouvelle fût vraie, fût exacte. Mais non. Peut-être était-elle exacte, mais Limogeon n'a pas donné de nouvelles. Aura-t-il voulu disparaître de cette manière? Enfin, comme les alchimistes qui ont réussi, disent eux-mêmes, tuer le vieil homme. A-t-il voulu disparaître ainsi, vis-à-vis de la société, n'est-ce pas, à la manière de, comme je vous disais tout à l'heure, du cosmopolite, qui lui s'est fait disparaître dans le martyr.
Une espèce de suicide.
La légende du cosmopolite, c'est sa mort dans les tortures par un prince allemand, n'est-ce pas, un Christian, un duc, je ne sais plus lequel exactement, je ne l'ai pas dans la tête. En réalité, là, on a des nouvelles très nettes, on a des témoignages de personnages de l'époque très sérieux, savants, bien connus, réputés, et qui, quelques 6 années après, après la mort, soi-disant, du cosmopolite, le voyait, savait même où il habitait. Ils le disent, ont conscience de l'importance du secret, de l'importance de ne pas dire où le cosmopolite se trouve. D'ailleurs, dans le livre Le Triomphe Hermétique, je l'ai rapporté, et nous avons des documents certains que vers 1610 encore, le cosmopolite vivait. Alors qu'on pensait qu'il eût été martyrisé en 1604.
Qu'est-ce que le triomphe hermétique ?
On ne doit pas s'attendre de voir ici une explication en détail qui tire absolument le rideau de dessus cette énigme philosophique pour faire paraître la vérité à découvert. Si cela était, il n'y aurait plus qu'à jeter au feu tous les écrits des philosophes. Les sages n'auraient plus d'avantage sur les ignorants. Les uns et les autres seront également habiles dans ce merveilleux art. On se contentera donc de voir dans cette figure, comme dans un miroir, l'abrégé de toute la philosophie secrète qui est contenue dans ce petit livre, où toutes les parties de cet emblème se trouvent expliquées aussi clairement qu'il est permis de le faire. Ceux qui sont initiés dans les mystères philosophiques comprendront d'abord aisément le sens qui est caché sous cette figure, mais ceux qui n'ont pas ces lumières doivent considérer ici en général une mutuelle correspondance entre le ciel et la terre par le moyen du soleil et de la lune qui sont comme les liens secrets de cette union philosophique. Ils verront dans la pratique de l'œuvre deux ruisseaux paraboliques qui, se confondant secrètement ensemble, donnent naissance à la mystérieuse pierre triangulaire qui est le fondement de l'art. Ils verront un feu secret et naturel dont l'esprit, pénétrant la pierre, la sublime en vapeur qui se condense dans le vaisseau. Ils verront quelle efficace la pierre sublimée reçoit du soleil et de la lune, qui en sont le père et la mère, dont elle hérite d'abord la première couronne de perfection. ils verront dans la continuation de la pratique que l'art donne à cette divine liqueur une double couronne de perfection par la conversion des éléments et par l'extraction et la dépuration des principes par où elle devient ce mystérieux caducé de mercure qui opère de si surprenantes métamorphoses. Ils verront que ce même mercure, comme un phénix, qui prend une nouvelle naissance dans le feu, parvient par le magistère à la dernière perfection de soufre fixe des philosophes, qui lui donne un pouvoir souverain sur les trois genres de la nature, dont la triple couronne sur laquelle est posée pour cet effet, le hiéroglyphique du monde, est le plus essentiel caractère. Ils verront enfin dans son lieu ce que signifie la portion du zodiaque avec les trois signes qui y sont représentés, de sorte que joignant toutes ces explications ensemble, il ne sera pas impossible d'en tirer l'intelligence entière de toute la philosophie secrète et de la plus grande partie de la pratique qui est déduite assez au long dans la lettre adressée au vrai disciple de Hermès qui est à la fin de cet ouvrage.
Précisément, si vous regardez cette gravure, vous voyez que la montagne sur laquelle s'élève le fourneau, le vase, le philosophal, est percé d'un trou à peu près circulaire par lequel on aperçoit le feu central. Évidemment, c'est à la fois le feu naturel et le feu secret, puisque si ce trou n'avait pas été pratiqué, ce feu, ces flammes, on ne les verrait pas. C'est une allégorie, parce que je dois vous dire que l'alchimiste qui a trouvé, qui est arrivé au bout du grand œuvre avec succès, a trouvé par là même la pierre philosophale, qu'on appelle aussi la médecine universelle. Cette médecine universelle lui donne la possibilité de vivre bien au-delà des limites habituelles de l'existence humaine. Alors, c'est très difficile socialement de se maintenir au milieu de la société avec un semblable état civil.
C'est ce qui explique chaque fois ce mystère de la mort autour des alchimistes.
Et l'expression des alchimistes de l'espoir de tuer le vieil homme. Car n'oubliez pas aussi, enfin n'oubliez pas, c'est une manière de parler, la médecine universelle, la pierre philosophale, apporte à la fois, non pas seulement cette possibilité de prolonger quasi éternellement son existence, mais aussi de gagner un aspect de jeunesse. En général, l'aspect de l'adepte se situe entre 45 et 50 ans. Déjà, à l'âge où je suis arrivé moi-même, un homme de 50 ans, c'est un homme jeune. Dame, s'il est possible de vivre en bonne santé, avec, en plus, la faculté de tout voir, et puis, la possibilité d'obtenir par cette médecine universelle tout l'or qu'il peut désirer et qui puisse être nécessaire précisément à son existence d'adepte, car on imagine bien qu'un homme qui se trouve dans ces conditions sur la terre ne peut pas vivre comme le commun, et il lui faut en quelque sorte le luxe. luxe dans le sens de luxe lucis, parce que le luxe, ça n'est pas seulement la possibilité de dépenser beaucoup, d'avoir tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut désirer, mais c'est aussi la lumière.
In vitam mortem mutas. Tu changes la mort en vie, les douleurs en plaisir, les ténèbres en lumière, tous les maux en bien et la guerre en paix. Tu compenses le travail par le repos, le gémissement par l'allégresse. Ô pierre admirable par le feu.
Ce triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier est réputé à bon droit. Et la parenté avec Philalète est évidente. Philalète, c'est encore un adepte de qui on n'a jamais connu le véritable nom. Disons même à l'époque où il vivait, son état civil. On ne le sait pas. On ne le sait pas.
Toujours le mystère de l'état civil.
Oui, et Philalète était adepte, lui, l'annonce péremptoirement.
Le triomphe hermétique commence par une espèce de fable qu'on appelle l'ancienne guerre des chevaliers.
C'est l'ancienne guerre des chevaliers, oui, parce que les alchimistes étaient un peu comme les chevaliers errants. Ils travaillaient pour les beaux yeux de leur belle, comme les chevaliers errants dont, d'ailleurs, on a un exemple extraordinaire avec le Don Quixote de Cervantes, n'est-ce pas ? Car le Don Quixote est un véritable traité d'alchimie. Il y a des phrases qui seraient telles quelles, qui ont été telles quelles, prises dans les traités analogues à celui de Limogeon que vous avez là. Par exemple, dès le début, sans raison, on ne sait pas pourquoi, il y a ce laboureur, enfin ce paysan très brutal, méchant, qui est en train de battre un enfant. L'enfant est attaché à un chêne, n'est-ce pas ? Il le bat. Et auprès du chêne, il y a non un cheval et une lance. Cervantes ne dit pas pourquoi. C'est alchimique encore. La lance, le cheval, c'est la cabale.
Alors, ceci explique le titre « Les chevaliers », mais est-ce qu'on peut raconter fable de...
C'est vrai. L'histoire de l'ancienne guerre des chevaliers reproduit précisément ce qui, en filigrane, transparaît dans les romans de chevalerie, dont, pour revenir à Don Quichotte si on veut, le gentilhomme de la Manche était féru. Et très exactement, l'ancienne guerre des chevaliers, c'est un roman de chevalerie. Alors vous y voyez un véritable combat, celui de l'or, du mercure, qui sont associés contre la pierre. Parce que les alchimistes anciens qui se qualifie d'envieux pour cacher la véritable voie qui, selon eux, est très facile, pourrait être exposée en quelques mots. Et c'est bien vrai. C'est bien vrai, seulement c'est la réalisation qui est plus difficile parce que il y a l'accord nécessaire avec le cosmos. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment. Là, nous pénétrons dans le laboratoire.
Et alors, quel est le sujet de la querelle entre l'or,
voilà,
le mercure et
voilà,
la pierre ?
Voilà, j'y venais. L'or et le mercure sont associés contre la pierre. J'ai l'impression... J'ai pas l'impression, j'ai la certitude. Parce qu'au laboratoire, je l'ai vérifié. Mais il n'est ni philosophique, ni scientifique de dire d'une opération qu'elle n'est pas exacte parce qu'on ne l'a pas réussie. Un autre peut la réussir. Mais, en tout cas, l'or et le mercure sont associés dans cette voie de laquelle tous les auteurs parlent pour cacher la voie courte et la voie, disons, réelle. Mais ce qui est singulier, c'est que cette voie de l'or et du mercure, qui, dans cette guerre des chevaliers, vont même jusqu'à se battre avec la pierre.
Et à s'insulter auparavant.
S'insulte d'abord et passe après, en passe aux mains, si ce n'est à l'épée. Et dans cette voie longue, cette voie dite au ballon, dite encore humide, on dissout, on fait un amalgame, en somme, de l'or considéré comme le ferment, avec le mercure, que nous appellerons en l'occurrence, si on veut, le vif argent, celui que nous trouvons dans nos thermomètres, on fait un amalgame et on cuit. Mais, en fil à lettre, est très clair là-dessus. Limogeon s'en plaint, lui en fait le reproche. Dans son traité du triomphe hermétique, il lui reproche d'avoir trop insisté sur cette possibilité d'arriver au grand arcane par cette voie de coction au ballon de l'or amalgamé dans le mercure. Un amalgame qui ne soit pas évidemment trop raide, n'est-ce pas ? Mais auparavant, Philalète s'étend longuement sur la nécessité de préparer l'or. Il joue avec les mots, prend l'épithète de philosophique, dit qu'il faut rendre l'or philosophique, mais dit bien aussi, très clairement, sans qu'il soit possible de se tromper, qu'il s'agit bien de l'or métal, du métal précieux, du métal jaune précieux. C'est ce qui fait l'objet du débat, l'objet de la discussion assez violente. C'est précisément cette antinomie des deux voies. Bon, on peut se dire, je n'ai pas réussi, je vais recommencer, mon or était très pur, je l'ai pourtant précipité d'un chlorure, enfin on a fait pour le mieux, on l'a calciné selon les vieux traités de Spagyrie. J'ai fait l'opération, je l'ai faite, j'ai cuit pendant 14 mois, ça ne vous dit rien. Ah, je dois aussi vous dire que cela donne des scènes extraordinaires, des scènes colorées, extraordinaires, oui. Mais j'ai conclu que c'était une illusion parce qu'au demeurant, je n'ai rien trouvé. Mais je ne peux pas affirmer, je vous le disais tout à l'heure, que l'opération, vue sous cet angle, ne soit pas possible. L'opération, ce n'est pas exact, je veux dire le grand or. Par cette voie, par cette route, ne me paraît pas possible.
Vous écoutez Les Nuits de France Culture avec Eugène Cancelier, alchimiste, suite, deuxième partie.
Ah !
Entre chien et loup.
Entre chien et loup.
Avec Eugène Cancelier, alchimiste.
Ah !
Entre chien et loup.
Eugène Cancelier, commentateur du Triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, Bibliotheca Hermetica, De Noël, éditeur.
Entre chien et loup. 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 Entre chien.
Où nous commençons par l'entretien de Dox et de Pyrophile sur l'ancienne guerre des chevaliers.
Pyrophile. Oh, moment heureux qui fait que je vous rencontre en ce lieu. Il y a longtemps que je souhaite, avec le plus grand empressement du monde, de pouvoir vous entretenir du progrès que j'ai fait dans la philosophie par la lecture des auteurs que vous m'avez conseillé de lire pour m'instruire du fondement de cette divine science qui porte par excellence le nom de philosophie. Eudoxe. Je n'ai pas moins de joie de vous revoir et j'en aurai beaucoup d'apprendre quel est l'avantage que vous avez tiré de votre application à l'étude de notre sacrée science. Pyrophile. Je vous suis redevable de tout ce que j'en sais et de ce que j'espère encore pénétrer dans les mystères philosophiques si vous voulez bien continuer à me prêter le secours de vos lumières. C'est vous qui m'avez inspiré le courage qui m'était nécessaire pour entreprendre une étude dont les difficultés paraissent impénétrables dès l'entrée et capable de rebuter à tout moment les esprits les plus ardents à la recherche des vérités les plus cachées. Mais grâce à vos bons conseils, je ne me trouve que plus animé à poursuivre mon entreprise. Eudoxe. Je suis ravi de ne m'être pas trompé au jugement que j'ai fait du caractère de votre esprit. Vous l'avez de la trempe qu'il faut l'avoir pour acquérir des connaissances qui passent la portée des génies ordinaires et pour ne pas mollir contre tant de difficultés et qui rendent presque inaccessible le sanctuaire de notre philosophie. Je loue extrêmement la force avec laquelle je sais que vous avez combattu les discours ordinaires de certains esprits qui croient qu'il y va de leur honneur de traiter de rêverie tout ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne veulent pas, qu'il soit dit, que d'autres puissent découvrir des vérités dont eux n'ont aucune intelligence. Pyrophile, je n'ai jamais cru devoir faire beaucoup d'attention au raisonnement des personnes qui veulent décider des choses qu'ils ne connaissent pas, mais je vous avoue que si quelque chose eût été capable de me détourner d'une science pour laquelle j'ai toujours eu une forte inclination naturelle, ça aurait été une espèce de honte que l'ignorance a attachée à la recherche de cette philosophie. Il est fâcheux, en effet, d'être obligé de cacher l'application qu'on y donne. À moins que de vouloir passer dans l'esprit de la plupart du monde pour un homme qui ne s'occupe qu'à de vaines chimères. Mais comme la vérité, en quelque endroit qu'elle se trouve, a pour moi des charmes souverains, rien n'a pu me détourner de cette étude. J'ai lu les écrits d'un grand nombre de philosophes aussi considérables pour leur savoir que pour leur probité, et comme je n'ai jamais pu mettre dans mon esprit que tant de grands personnages fussent autant d'imposteurs publics, j'ai voulu examiner leurs principes avec beaucoup d'application, et j'ai été convaincu des vérités qu'ils avancent, bien que je ne les comprenne pas encore toutes.
En manière d'introduction à la suite de notre parcours à la recherche du Grand Arcane, nous venons d'entendre le début de l'entretien d'Eudox et de Pyrophile sur l'ancienne guerre des chevaliers. Notre cavalier tente maintenant de sauter un nouvel obstacle en conduisant sa monture, notre fidèle ami, sur le sentier de la pierre philosophale. À confondre ou à ne pas confondre avec la pierre des philosophes, monsieur Cancelier, ou quelle différence entre les deux?
Elle est très nettement indiquée chez Limogeon. La pierre, tout simplement. Il dit la pierre des philosophes, c'est en effet la pierre des philosophes, puisque c'est elle que les philosophes choisissent au commencement de leur travail. car attention aussi, philosophe, est là vraiment dans son acception. Le vocable substantif s'est détourné de son acception avec les philosophes, les encyclopédistes, qui n'ont rien à voir avec les philosophes hermétiques. Ah non, ça c'est très important.
Donc la pierre du philosophe...
Alors, la pierre des philosophes, c'est la pierre brute. C'est celle-là même des francs-maçons. Chez eux, les francs-maçons sont très riches de symboles hermétiques autour d'eux, dans leur loge, dans leurs manuels aussi et dans les livres anciens. C'est la pierre brute qu'il faut équarrir. On le sent d'ailleurs dans Limogeon, c'est le sujet minéral que le philosophe, qui prend alors le nom d'artiste parce qu'il va travailler au fourneau, c'est donc ce sujet minéral qui est pris. Ce sujet minéral duquel tous les philosophes, tous les alchimistes ont dit, tous, c'est unanime, même dans les petits traités du Moyen-Âge, qu'elle est méprisée, qu'elle est vile, qu'elle ne coûte pas. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. C'est un minéral, elle est tirée de la terre. Elle est pierre parce qu'elle est solide, parce que on doit la broyer avec le pilon dans le mortier pour la facilité de la fusion subséquente, car les opérations alchimiques commencent toujours par la fusion, c'est nécessaire. Si on travaille par voie sèche, c'est-à-dire par la voie du creuset, au foyer.
Mais justement, il y a une remarque de Pyrophile dans les entretiens. Il dit « La matière philosophique n'a besoin de quoi que ce soit autre que d'être dissoute et coagulée. » Il faut donc qu'il travaille sur une matière liquide, la pierre étant solide.
Pour les alchimistes, une dissolution, c'est une fusion. Un corps dur qu'on fait entrer en fusion par la même et dissous.
Par l'intermédiaire d'un feu.
Par l'intermédiaire du feu que nous qualifierons, si vous voulez, pour le distinguer de l'autre plus noble, le feu commun, le feu élémentaire. C'est d'ailleurs, le feu est un des quatre éléments dont parlent toujours les alchimistes. D'ailleurs, la pierre philosophale qui reçoit comme hiéroglyphe l'étoile à six branches, c'est l'accord parfait des quatre éléments, le triangle du feu qui pénètre en sens inverse, celui de l'eau, l'accord du feu et de l'eau étant réputé impossible, nous avons déjà l'étoile, mais il y a les deux triangles qui représentent et qui sont coupés à la pointe, le triangle de la terre et le triangle de l'air. Et du fait que les deux triangles se sont pénétrés, celui du feu et de l'eau, vous avez les petites barres. Si on applique bien le dessin triangulaire sur l'autre, c'est-à-dire avec les sommets inversés, n'est-ce pas ? On a les pointes qui sont traversées de la barre qui indiquent les deux triangles de l'air et de la terre. Et c'est l'association parfaite des quatre éléments.
Eudoxe ajoute « Il y a bien de la différence entre déclarer positivement que telle ou telle matière n'est pas le véritable sujet de l'art, comme ils font touchant l'or et le mercure, et donner à connaître sous des figures et des allégories les plus importants secrets aux enfants de la science qui ont l'avantage de voir clairement les vérités philosophiques à travers les voiles énigmatiques dont les sages savent les couvrir. Dans le premier cas, les philosophes disent négativement la vérité sans équivoque. Mais lorsqu'ils parlent affirmativement et clairement sur ce sujet, on peut conclure que ceux qui s'attacheront au sens littéral de leurs paroles seront indubitablement trompés. Les philosophes n'ont point de moyens plus assurés pour cacher leur science à ceux qui en sont indignes et la manifester aux sages que de ne l'expliquer que par des allégories dans les points essentiels de leur art. C'est ce qui fait dire à Artéphius que cet art est entièrement kabbalistique, pour l'intelligence duquel on a besoin d'une espèce de révélation. La plus grande pénétration d'esprit, sans le secours d'un fidèle ami, qui possède ces grandes lumières, n'étant pas suffisante pour démêler le vrai d'avec le faux. Aussi est-il comme impossible qu'avec le seul secours des livres et du travail, on puisse parvenir à la connaissance de la matière et encore moins à l'intelligence d'une pratique si singulière, toute simple, toute naturelle et toute facile qu'elle puisse être. Le grand arcane.
Le grand arcane, l'arcane, point n'est besoin même de lui ajouter l'épithète. Mais enfin, c'est tout de même le grand arcane, c'est la pierre philosophale. Le grand arcane, arcane veut dire secret, n'est-ce pas? C'est le grand secret. Mais arcane se présente souvent dans le grand œuvre. Voyez par exemple, nous parlions tout à l'heure du feu, de ce feu secret dont parle Limogeon de Saint-Didier et qui, naturellement, n'est pas celui de nos fourneaux. C'est un arcane. C'est un arcane très grand aussi. D'ailleurs, on peut bien dire que le triomphe hermétique roule beaucoup sur cette connaissance du feu secret qui est en même temps le sel. Car c'est un sel. Il le dit, Limogeon, d'ailleurs. Là, il entre directement dans la chimie. Mais dans la chimie, pas la chimie. Oui, l'alchimie, au fond, attention, je tiens bien à le préciser. L'alchimie, c'est la chimie. Mais la chimie qui tient compte de la puissance du cosmos.
Oui, et c'est pour cela que Limogeon de Saint-Didier fait dire à Pyrophile: je relirai Artéphius avec plus d'application que je n'ai encore fait, et je me souviendrai fort bien que vous m'avez dit que le feu secret des sages est un feu que l'artiste prépare selon l'art, ou du moins qu'il peut faire préparer par ceux qui ont une parfaite connaissance de la chimie.
Voilà, très bien. Seulement, admettez que ce sel soit l'azotate de potasse, c'est-à-dire le salpêtre, ou si vous préférez encore, le nitre. Il est vulgaire, là. Mais si, par exemple, vous tirez ce nitre de la rosée, c'est tout autre chose, car il y a un nitre subtil qui est précisément dans les eaux supérieures, car il y a les eaux inférieures et les eaux supérieures. D'ailleurs, c'est bien resté avec le vocable poétique « onde ». Les ondes, même celles qui transportent notre parole, ce sont les eaux supérieures de la Bible, de la Genèse. À l'origine, Dieu sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. Là, il y a un nitre subtil, et les anciens ne l'ignoraient pas. Et René Allot a eu une idée excellente, et c'est ce qui prouve bien qu'il a travaillé lui-même. Unir le mutus liber et le triomphe hermétique, parce que tous deux se complètent. Les opérations qui sont données par Altus dans son mutus liber, c'est-à-dire dans son livre muet,
c'est une série de gravures, je crois qu'il faut dire.
Ce sont des planches, des gravures, sans paroles. C'est-à-dire sans paroles écrites, plus exactement, parce qu'elles sont bien éloignées, ces planches, d'être sans voix. C'est le symbole qui parle. Et croyez bien que le symbole parle toujours beaucoup plus honnêtement que la parole écrite. Or, le mutus liber, c'est la préparation du fameux feu secret. Et c'est très important. Et je vous assure que les manipulations sont données presque en clair pour celui-là qui, évidemment, travaille.
Mutus liber, avec une hypotypose de Magophon. La quatrième planche montre comment s'opère la collection du floss Celli. Des draps sont tendus sur des piquets pour recevoir la rosée céleste. Au-dessous, un homme et une femme en opèrent la torsion pour en exprimer la divine liqueur qui tombe dans un grand vase disposé à cette fin. À gauche, on voit le bélier. À droite, le taureau. Le flot Celli a mis à la torture l'esprit des mauvais souffleurs. Les uns y ont vu une sorte d'influx magique, car pour cela la magie est une puissance surnaturelle acquise par le concours des esprits bons ou mauvais. Les autres, plus réalistes et plus rapprochés du vrai, y ont reconnu la rosée matutinale. Nous devons déclarer de bonne foi que le bélier et le taureau de la planche qu'on prend toujours pour les signes du zodiaque, sous lesquels on doit recueillir le floss Celli, n'ont aucun rapport avec les symboles astrologiques. Le bélier est l'Hermès Cryophore, qui est le même que Jupiter Amon. Et le taureau, dont les cornes dessinent le croissant, attribut de Diane et d'Isis, qui s'identifie avec la vache Io, Amon de Jupiter, est la lune des philosophes. Ces deux animaux personnifient les deux natures de la pierre. Leur union forme l'azim des Égyptiens, l'azima de la Bible, monstre hybride désignant l'oricalque, l'oryx de l'Éton ou d'Airain, le taureau de Phalaris ou de bronze, le veau d'or ou de chrysocale, qui diffère certes du similor de Mannheim, et tient en quelque chose du Melchior. Enfin, pour tout dire, c'est l'électrum des poètes. Mais il faut bien entendre ce mot qui renferme l'arcane magique. Philalète enseigne que l'or des hermétistes est en un certain point semblable à l'or vulgaire. Nous ajouterons encore que, suivant la mythologie, la pierre dévorée par Saturne s'appelait Betulus, qui est en somme le même mot que Vitulus, nom latin du veau, et que Vitellus, le jaune de l'œuf. La pâte des azimes en était l'hiéroglyphe. Les prêtres des bords du Nil ne touchaient jamais au pain du sacrifice avec un instrument tranchant d'acier ou de fer. Ils en faisaient un cas de sacrilège. De là, cette ancienne coutume encore en usage de rompre le pain. De même, dans le rite catholique, l'officiant sectionne l'hostie avec la patène de vermeil. Toute cette logomachie cache le vermillon des sages ou l'amalgame philosophique du mercure, de l'or, de l'argent, de l'art, rendu indissoluble par le floss Celli.
Est-ce que vous pouvez vous servir de ces expériences données par Limogeon, par le Mutus Liber? Est-ce qu'elles sont toujours valables? Est-ce que vous pouvez les suivre?
Ah oui. Au laboratoire, je ne fais rien d'autre que font eux-mêmes les chimistes dans les leurs. Mais voyez où le travail diffère, où l'action diffère, c'est qu'elle est philosophique dans le laboratoire de l'alchimiste. Vous me direz, philosophique, ça ne veut pas dire grand-chose. Si, tout de même. Philosophique parce que l'alchimie, qui a toujours existé semblable à elle-même, l'alchimie est accompagnée d'une philosophie. Ça, c'est très important. La chimie ne peut pas en dire autant. Bien mieux, c'est une déviation de l'alchimie. C'est pas l'alchimie qui a donné naissance à la chimie. Et elles ont toujours existé.
Parallèlement.
Il suffit de lire les traités les plus anciens, les traités du plus lointain Moyen-Âge, ceux-là que nous ont apportés dans leur bagage, les croisés, que nous ont apportés les Templiers, tous ces traités qui, par les Arabes, nous sont venus des Grecs d'Alexandrie. L'alchimie a toujours été ce qu'elle est maintenant. La chimie, elle, s'est installée à côté, souvent des alchimistes déçus et qui, en faisant des recherches empiriques, en prenant non pas la matière que les philosophes, que la tradition maintient, n'est-ce pas, en prenant toutes sortes de choses, d'ailleurs c'est condamné par les classiques, toujours ils insistent là-dessus, vous le voyez bien dans le combat, dans la dispute de l'or, du mercure, avec la pierre des philosophes, les reproches que la pierre adresse, mais vous, le mercure étant mélangé à toutes sortes de choses, les mauvais alchimistes, dirais-je, en cheminant en dehors de la bonne voie, ont trouvé beaucoup de choses qui ont été les inventions qui d'ailleurs ont beaucoup servi dans la vie des humains, tous les produits chimiques qu'on connaît déjà depuis longtemps.
Il ne se trouvera personne de bon sens et craignant Dieu qui n'entre dans ses sentiments, et qui ne doivent être entièrement persuadés que pour réussir dans une si grande et si importante entreprise, il ne faille supplier incessamment la bonté divine d'éclairer nos esprits et de donner sa bénédiction à nos travaux. Il ne me reste plus qu'à vous rendre de très humbles grâces de ce que vous avez bien voulu me traiter en enfant de la science, me parler sincèrement et m'instruire dans de si grands mystères aussi clairement et aussi intelligiblement qu'il est permis de le faire et que je pouvais le souhaiter. Je vous proteste que ma reconnaissance durera tout autant que ma vie.
Troisième et dernière partie avec Eugène Cancelier, alchimiste. Vous écoutez Les Nuits de France Culture.
Ah
Entre chien et loup.
Entre chien et loup.
Avec Eugène Cancelier, alchimiste.
Entre chien et loup.
Eugène Cancelier, commentateur du Triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, Bibliotheca Hermetica, De Noël, éditeur.
Entre chien et loup.
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 Entre
Limogeon de Saint-Didier attachait, on l'a vu au cours de deux précédentes émissions, un très grand prix au traité anonyme de l'ancienne guerre des chevaliers, dont il avait reçu d'un savant philosophe l'excellente traduction en latin, exécutée sur le texte allemand, original et fort laborieusement retrouvé. Il attribuait, disions-nous, tant de valeur à cet écrit qu'il n'y vit rien moins que le triomphe hermétique ou la pierre philosophale victorieuse, et qu'il y adjoignit le précieux commentaire que l'on connaît partiellement sous forme d'entretien entre le maître Eudoxe et son disciple Pyrophile. On comprend que l'élève Jean-Louis Cavalier aborde avec chaleur le maître Eugène Cancelier, à qui il est redevable de tout ce qu'il sait, et même de ce qu'il espère apprendre encore avec nous.
La pierre philosophale qu'on trouve à l'issue de la grande coction, à la fin du grand œuvre, ne sert pas à la transmutation métallique, je tiens à le préciser. C'est une pierre qui se présente sous l'aspect d'un très beau rubis, qui est très dur et à la fois très dense et très fusible, c'est ce qui est fort singulier. Cette pierre ne transmute pas les métaux inférieurs, les métaux vulgaires. Il faut tout d'abord que le philosophe, que l'adepte qui a reçu ce qu'ils appellent eux-mêmes le don de Dieu, il faut qu'il distrait une certaine partie de cette médecine et la projette sur l'or. À ce moment-là, il obtient la pierre transmutatoire, qui est propre au règne minéral.
Est-ce que, par exemple, c'est une question naïve, je ne sais pas comment elle peut être reçue, est-ce qu'une pierre de lune peut changer une certaine conception des choses?
Ah, ça, je ne sais pas. C'est un autre monde. La lune, en tout cas, sert tellement à notre existence ici-bas. Tenez, comme c'est curieux. Lorsqu'on fond de l'argent très pur, l'argent, pour les anciens, c'est la lune. C'est la lune. D'ailleurs, le signe alchimique, et disons même spagyrique, c'est-à-dire de chimie ancienne, qui désigne la lune, c'est le ménisque lunaire, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on a de l'argent en fusion, lorsqu'on le verse en plaques, c'est très curieux à faire, se produit un phénomène que la chimie a bien expliqué, en ce sens que l'argent fondu absorbe l'oxygène. En tout cas, il se produit le phénomène du rochage. En refroidissant, l'argent, n'est-ce pas, éclate en surface en une multitude de cratères, donnant l'aspect, absolument l'aspect lunaire. C'est très curieux. Alors, bien sûr, la pierre de lune, c'est autre chose. C'est, dans la chimie ancienne, c'est l'azotate de potasse fondu. On appelait cela aussi la pierre infernale. C'est-à-dire, la pierre infernale, c'est plus exactement l'azotate d'argent.
Remarquez donc que le terme de pierre est pris en plusieurs sens différents, et particulièrement par rapport aux trois différents états de l'œuvre. Ce qui fait dire à Geber qu'il y a trois pierres, qui sont les trois médecines répondant aux 3 degrés de perfection de l'œuvre, de sorte que la pierre du premier ordre est la matière des philosophes, parfaitement purifiée et réduite en pure substance mercurielle. La pierre du second ordre est la même matière cuite, digérée et fixée en soufre incombustible. La pierre du troisième ordre est cette même matière fermentée, multipliée et poussée à la dernière perfection de teinture fixe, permanente et tingente, et ces 3 pierres sont les 3 médecines des 3 genres. Remarquez de plus qu'il y a une grande différence entre la pierre des philosophes et la pierre philosophale. La première est le sujet de la philosophie considérée dans l'état de sa première préparation, dans lequel elle est véritablement pierre, puisqu'elle est solide, dure, pesante, cassante, friable. Elle est un corps, dit Philalète, puisqu'elle coule dans le feu, comme un métal. Elle est cependant esprit, puisqu'elle est toute volatile. Elle est le composé et la pierre qui contient l'humidité qui court dans le feu, dit Arnaud de Villeneuve dans sa lettre au roi de Naples. C'est dans cet état qu'elle est une substance moyenne entre le métal et le mercure, comme dit l'abbé Synesius. C'est enfin dans ce même état que Geber la considère quand il dit en 2 endroits de sa somme « Prends notre pierre », c'est-à-dire, dit-il, « la matière de notre pierre ». Tout de même que s'il disait « Prends la pierre des philosophes », qui est la matière de la pierre philosophale. Ces distinctions vous serviront beaucoup pour développer le sens embarrassé des écritures philosophiques et pour éclaircir plusieurs endroits de l'auteur sur lesquels vous avez des questions à me faire.
Est-ce que la découverte de l'arcane se fait brutalement ? Ou, comme dans la science traditionnelle, il y a une approximation et une approche...
Oh, il n'y a pas de surprise, ça vous avez raison de le faire remarquer. Il n'y a pas de surprise, non, non. On va jusqu'au bout, très positivement, par le raisonnement. Car, attention, l'alchimie, c'est une science exacte. Quand je dis « la pierre des philosophes », admettez que ce soit un sulfure d'un métal blanc. Admettez que ce soit la galène, le sulfure de plomb. C'est lui que j'emploie. Je fais des opérations très réelles. Il ne faudrait pas tomber dans cette alchimie spirituelle que beaucoup d'auteurs veulent répandre. Non, non, ce ne sont pas des expressions chimiques qui se rapportent à des conceptions intellectuelles, ou plutôt qui servent de base. Non, 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 j'emploie très réellement les mêmes ustensiles, pinces, creusets, cornues. Je fais très exactement le même travail que le chimiste.
Donc on peut dire que c'est la chimie qui est une science exacte.
La chimie est une science exacte et l'alchimie l'est aussi parce qu'elle travaille comme elle. Avec cette différence, je vous répète, qu'elle tient compte des influences cosmiques. Et aussi, oui, même disons, de la position solaire, de la position lunaire. C'est très important, ça se sent. Il suffit de travailler au laboratoire pour savoir combien il est important de prendre en considération les conditions extérieures et particulièrement celles du ciel.
Alors, est-ce que dans ces conditions, vous avez assez de moyens d'investigation pour reconnaître l'influence exacte des astres et du cosmos ?
Mais très réellement. Mais je vais plus loin. Je peux vous dire, par exemple, que... l'alchimiste, bien avant qu'on s'en soit aperçu, en chimie, en physico-chimie, l'alchimiste savait que l'esprit et la matière ne faisaient qu'un, que l'esprit est pesant, l'esprit est de la matière. L'esprit est recueilli. Ce que les anciens appelaient l'esprit universel, nous le recueillons. n'est-ce pas? Dans un corps qui lui convient, ah, il est très délicat, il est farouche cet esprit, mais on le retient comme un physicien, comme un chimiste, on le retient, on voit sa couleur, il est vert, l'esprit universel est vert, et il pèse même lourd. Il se présente pour moi de vérifier le poids de l'esprit en grammes, vous entendez bien, en grammes. C'est très simple, connaissant le poids du véhicule, lorsque j'y ai incorporé l'esprit, bah par une simple soustraction du poids total obtenu, je sais le poids de l'esprit et j'en connais la couleur. Il est vert. C'est ce que les anciens ont appelé le vitriol philosophique. Mais philosophique, parce que ce n'est évidemment pas le sulfate de fer.
Lettre au vrai disciple d'Hermès, extrait. Je vous avoue sincèrement que la pratique de notre art est la plus difficile chose du monde, non par rapport à ses opérations, mais à l'égard des difficultés qu'il y a de l'apprendre distinctement dans les livres des philosophes, car, si d'un côté elle est appelée avec raison un jeu d'enfant, de l'autre elle requiert en ceux qui en cherchent la vérité par leur travail et leur étude, une connaissance profonde des principes et des opérations de la nature dans les trois genres, mais particulièrement dans le genre minéral et métallique. C'est un grand point de trouver la véritable matière qui est le sujet de notre œuvre. Il faut percer pour cela mille voiles obscures dont elle a été enveloppée. Il faut la distinguer par son propre nom entre un million de noms extraordinaires dont les philosophes l'ont diversement exprimé. Il en faut comprendre toutes les propriétés et juger de tous les degrés de perfection que l'art est capable de lui donner. Il faut connaître le feu secret des sages qui est le seul agent qui peut ouvrir, sublimer, purifier et disposer la matière à être réduite en eau. Il faut pénétrer pour cela jusque à la source divine de l'eau céleste qui opère la solution, l'animation et purification de la pierre. Il faut savoir convertir notre eau métallique en huile incombustible par l'entière solution du corps, d'où elle tire son origine, et pour cet effet, il faut faire la conversion des éléments, la séparation et la réunion des trois principes. Il faut apprendre comment on doit en faire un mercure blanc et un mercure citrin. Il faut fixer ce mercure, le nourrir de son propre sang, afin qu'il se convertisse en soufre fixe des philosophes. Voilà quels sont les points fondamentaux de notre art. Le reste de l'œuvre se trouve assez clairement enseigné dans les livres des philosophes pour n'avoir pas besoin d'une plus ample explication.
Est-ce qu'on peut définir l'objet de cette science? La recherche de...
Ah bien, c'est le grand œuvre, c'est indubitablement l'acquisition de la pierre philosophale, ou, si vous préférez, de la médecine universelle.
Alors, est-ce que cette science a un caractère culturel, à savoir la faire connaître à tout le monde, ou comme dit encore Limoges de Saint-Didier, il faut s'adresser aux vrais disciples d'Hermès?
Ah, non. Non, Limoges, j'entends ce qu'il dit, bien sûr. Mais croyez bien, d'autre part, que l'alchimie vient à son heure. L'alchimie était toujours là, cultivée par quelques-uns. Mais elle vient maintenant pour répondre à un besoin. Voyez-vous, elle vient pour porter remède au conflit assez grave qui se produit en ce moment, dans, disons même à l'université. La jeunesse est extrêmement séduite par l'alchimie. D'ailleurs, c'est un tout autre enseignement. En alchimie, il n'y a pas de livre élémentaire, si vous voulez, puis moyen, puis supérieur, de premier, il n'y a pas de sixième, de cinquième, enfin, il n'y a pas une gradation pour arriver à un endroit donné. Il n'y a qu'un diplôme en alchimie, un grand, c'est l'adepta, c'est la royale couronne de l'adepta, c'est de réussir le grand œuvre.
Et qui sont les vrais disciples d'Hermès ?
Bon, les vrais disciples d'Hermès, ce sont, ils les ont appelés aussi les fils de science, les amateurs de science, ce sont ceux-là qui, sans avoir réussi, sont tout de même dans la bonne voie, travaillent, font l'effort dans la bonne voie.
Il ne faut pas une révélation particulière.
Mais non, il n'y a pas de révélation particulière. Il y a...
Je veux dire une espèce d'état de grâce, finalement. Choisi, et
d'être
élu.
Un peu, oui. Oui, je n'aime pas ce mot, par exemple, d'état de conscience. C'est un état de la conscience, bien sûr, mais c'est voir tout alchimiquement, c'est-à-dire ne pas mettre de limite aux choses. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de limite aux choses. Chercher ce qu'il y a aussi au centre des choses, l'esprit de vie. Il y a dans le cheminement, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, si tant est que beaucoup arrivent, car il y a certainement des adeptes qui ne se font pas connaître, il y a un long cheminement où la patience, l'humilité, la persévérance, l'opiniâtreté sont nécessaires, mais combien d'encouragements en cours de route sans lesquels ce ne serait pas possible qu'on continuât. Mais non, que de beauté en cours de route au niveau même de la philosophie.
Est-ce que tout alchimiste devrait tendre vers le triomphe hermétique à la fin ?
C'est le triomphe hermétique. Croyez-vous que la pierre philosophale telle que je vous l'ai dépeinte, moi, mais telle qu'elle est dépeinte dans la littérature alchimique, mais la bonne littérature. Croyez-vous que ce ne soit pas triomphal ?
Épître d'Aristée à son fils sur la clé d'or de la nature. Extrait.
Verba Aristei patris ad filium ex caractere et idiomate scitico latino ritmo donata.
Mon fils, tous les êtres qui sont sous le ciel, divisés en espèces différentes, tirent leur origine d'un même principe, et c'est à l'air qu'ils doivent tous leur naissance, comme à leur principe commun. Comme les défauts d'une créature ne peuvent être réparés que par ce qui est d'une même nature, et que l'air est source originelle de toute chose, il s'ensuit nécessairement qu'il est la fontaine universelle. On voit manifestement que la semence, la vie, la mort, la maladie et le remède de toute chose sont dans l'air. La nature y a mis tous ses trésors, et les y renferme, comme dans des fleurs propres et particulières. Mais c'est posséder la clé d'or que de savoir ouvrir ces fleurs et puiser l'air de l'air. Car, si l'on ignore comment il faut puiser cet air, il est impossible d'acquérir ce qui guérit généralement toutes les maladies et qui redonne la vie aux hommes. Si tu désires donc de chasser toutes les infirmités, il faut que tu en cherches le moyen dans la source commune. La nature produit le semblable par le semblable, et il n'y a que ce qui est conforme à la nature qui peut faire du bien à la nature.
Apprends donc, mon fils, à prendre l'air. Apprends à conserver la clé dorée de la nature. Les créatures peuvent bien connaître l'air, mais pour prendre l'air, il faut avoir la clé de la nature. C'est véritablement un secret qui passe la portée de l'esprit de l'homme de savoir tirer de l'air l'arcane céleste. C'est un grand secret de comprendre la vertu que la nature a donnée aux choses, car les natures se prennent par des natures semblables. Un poisson se prend avec un poisson, un oiseau avec un oiseau, et l'air se prend par un autre air, comme par une douce amorce. La neige et la glace sont un air que le froid a congelé. La nature leur a donné la disposition qu'il faut pour prendre l'air. Mets une de ces deux choses dans un vase fermé. Prends l'air qui se congèle alentour, recevant ce qui distille dans un vaisseau profond, étroit, épais, fort et net, à une chaleur humide, afin que tu puisses faire comme il te plaira, ou les rayons du soleil ou ceux de la lune. Lorsque tu en auras empli un vase, bouche-le bien, de peur que cette céleste étincelle qui s'y est concentrée ne s'envole dans l'air. Emplis de cette liqueur autant de vases que tu voudras, ensuite écoute ce que tu en dois faire et garde le silence. Bâtis un fourneau, place-y un petit vase moitié plein de l'air que tu as pris et scelle-le exactement. Allume ensuite ton feu, en sorte que la plus légère partie de la fumée monte souvent en haut et que la nature fasse ce que fait continuellement le feu central au milieu de la terre où il agite les vapeurs de l'air par une circulation qui ne cesse jamais. Il faut que ce feu soit léger, doux et humide, semblable à celui d'un oiseau qui couve ses œufs. Tu dois continuer le feu de cette sorte et l'entretenir en cet état, afin qu'il ne brûle pas, mais plutôt qu'il cuise, ce fruit aérien, jusqu'à ce qu'après avoir été agité de mouvements pendant un long temps, il demeure entièrement cuit au fond du vaisseau. Ajoute ensuite à cet air un nouvel air, non en grande quantité, mais autant qu'il lui en faut. Fais en sorte qu'il se liquéfie doucement, qu'il pourrisse, qu'il noircisse, qu'il durcisse, qu'il s'unisse, qu'il se fixe et qu'il rougisse. Tu sépareras ensuite la partie pure de l'impur. Par le moyen du feu, et avec un artifice tout divin. Puis, tu prendras une partie pure d'air, cru, que tu mêleras avec la partie pure qui a été durcie. Tu auras soin que le tout se dissolve et s'unisse, qu'il devienne médiocrement noir, blanc, dur et enfin parfaitement rouge. C'est ici la fin de l'œuvre. Et tu as fait cet élixir qui produit toutes les merveilles que tu as vues. Tu possèdes par ce moyen la clé d'or, l'or potable, la médecine universelle et un trésor inépuisable.
C'était « Entre chien et loup », le triomphe hermétique de Limogeon de Saint-Didier, avec Eugène Cancelier, Roger Pilaudin, Jean-Louis Cavalier, texte lu par Jean Jaurès, une émission diffusée la première fois les 10, 17 et 24 octobre 1971.